deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois. Écrit libre.
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 Boléro. Dès que le mot fut annoncé, l'image souvenir de Georges Donne revint avec flamme. L'interprète mythique du Boléro de Ravel, chorégraphié par Maurice Béjart, cela se déroulait au Palais des Sports de Nantes en 1982. Une grande table rouge, une main, une autre, un corps en mouvement, une musique lentement imprègne aussi les corps des spectateurs. Une trentaine de danseurs entrent dans la danse. La vague sonore déferle dans la grande salle, amplifie les sensations d'où qu'elles viennent et se brise subitement, laissant tout un monde littéralement halluciné, envoûté par la magie de ce crescendo de 20 minutes. La performance du et des danseurs reste gravé à jamais dans les mémoires. Les textes que vous allez entendre répondent à cet écho, combinés avec une consigne. Choisir un personnage en mouvement, lequel peut marcher, nager, courir, effectuer des mouvements des bras ou n'importe quel mouvement du corps. Il s'agit dans tous les cas d'un mouvement ou d'un geste répétitif et que l'on verra se reproduire et s'amplifier dans le récit.
Chaque matin, Charles a rendez-vous à la piscine municipale. Il satisfait à l'obligation de s'entraîner. Il va multiplier les longueurs, autant de dizaines voire de centaines de 50 mètres qui à la fin de la matinée feront des kilomètres. Charles est l'archétype du nageur, grand, épaules larges, muscles saillants. Sa spécialité, la brasse papillon. La nage la plus dure aussi. Son coach, Henri, est arrivé aux aurores, prêt à lui en faire baver. Avant de se jeter à l'eau, il médite toujours sur le pourquoi d'avoir choisi cette discipline exigeante, qui, à moins d'obtenir des résultats internationaux, et encore, ne permet guère d'en vivre. A contrario d'un footballeur très moyen, qui aligne les zéros sur sa fiche de paix. Rituel avant de commencer. Les sportifs de haut niveau sont souvent superstitieux. Il porte le maillot de bain de son premier titre de champion de France, l'an dernier, 2, la paire de lunettes offerte par son papa, et 3, l'écoute au casque de la musique de Ravel. Le Boléro, qui fait partie de ces morceaux de musique qui, bien qu'on ne les ait pas entendus depuis longtemps, vous reviennent instantanément dans la tête, comme par enchantement. Charles est persuadé qu'il le transcende par son côté répétitif, allant de crescendo et lui permet un effort de plus en plus soutenu. Rituel accompli, il peut alors se jeter à l'eau. Il faut aussi savoir que Charles a un frère jumeau, Didier, qui lui est resté loin des bassins, mais avec qui la ressemblance physique s'allie à une connexion mentale très forte. À tel point, croyez-moi, dès les premières notes du Boléro écoutées par Charles, Didier ressent le besoin frénétique d'agiter les bras tel un nageur de brasse papillon, comme son frère. Où qu'il soit, et toujours quand Charles est à l'eau et s'entraîne, c'est-à-dire souvent. Quelques exemples parmi beaucoup. Au supermarché, sans crier gare, devant les clients stupéfaits, il bat des bras sans pouvoir s'arrêter. Pas facile non plus dans ces conditions de prendre un paquet de pâtes sans faire de dégâts dans les rayons. Ou encore, l'autre jour, je l'accompagnais régler un problème d'impôt et hop, sans transition. Le voilà parti dans ses invraisemblables moulinets. Avoir l'œil incrédule et noir de l'agent du fisc, je savais qu'on ne lui ferait aucun cadeau. Et pire encore, lorsque sa dernière copine a rompu, elle disait en avoir marre de son éternelle plaisanterie qu'elle ne comprenait pas tous les jours, même heure. Enfin, change de disque, Didier, c'est insupportable. Changer de disque, il l'aurait bien voulu, mais... 6 mois sont passés et j'ai appris que Charles a échangé le bleu des piscines pour la pelouse verte des terrains de foot, le maillot de bain contre la tenue des gardiens de but. Il s'éclate à plonger, à s'envoler, à boxer des 2 points, à arrêter les tirs puissants et à écouter le boléro juste avant le match. Mon petit doigt m'a dit que son frère en fait toujours de même au supermarché, dans les services publics, où que ce soit. Seul changement notable, sa nouvelle amie semble apprécier ce comportement étrange. Et elle en rit beaucoup. Elle l'encourage à continuer. Allez, vas-y Didier.
Il fait sombre. Une odeur sulfureuse emplit l'air de ce monde souterrain. Un monde où les êtres humains ne sont plus que des spectres vaporeux errant dans une torpeur infinie. Sur le flanc d'une montagne, un homme tente de remonter un énorme rocher jusqu'au sommet. Il peine, il transpire, souffle par moments, bande ses muscles puissants et, prenant appui sur ses sandales, fait monter la lourde pierre de quelques centimètres. Il y est presque, il s'arc-boute et, dans un suprême effort, place le rocher au sommet. Comme il éponge son front ruisselant, la pierre soudain bascule et dévale la pente. Notre homme n'a plus qu'à redescendre pour recommencer. Résigné, il part à la recherche du rocher. Il repense à son passé. Il était alors considéré comme le plus astucieux des hommes. Il avait fondé une ville, Corinthe. Il y avait bâti un palais si magnifique que les dieux en étaient jaloux. Les dieux n'avait pas supporté ce qu'il considérait comme une audace irrévérencieuse et le voilà condamné à rouler éternellement ce foutu rocher. Au sommet de l'Olympe, les dieux sont réunis en banquet. Le nectar coule à flot. La femme de Zeus, entre 2 coupes, a vu le messager des dieux entrer dans la salle. Elle est impatiente d'avoir des nouvelles. « Alors, Hermès, il continue à remonter son rocher ?» Il n'a pas le choix. Vous l'avez condamné à perpétuité pour une Aphrodite. Tout en minaudant, interrompt le messager. C'est dur tout de même pour un si bel homme. Héphaïstos, cher époux, ne peut-on mettre un terme à son supplice ? Héphaïstos, qui est jaloux de tous les hommes qui approchent Aphrodite, répond en marmonnant dans sa barbe et réclame une nouvelle coupe, qu'il s'enfile d'un coup derrière la tunique, puis essuie sa barbe d'un revers de manche. « Demande à Zeus, c'est lui le patron. Je ne suis que son forgeron. »« Mais c'est toi qui lui as créé son foudre, hein, mon petit amour de mari, susurre-t-elle en faisant des clins d'œil à Hermès. » Du fond des enfers, Sisyphe a retrouvé son rocher et commencé à remonter la pente. Il souffle, s'arc-boute encore et encore résigné et regrimpe la pente pour une énième fois. Au début, il comptait le nombre des montées. Maintenant, il ne compte plus. Ni les montées, ni les jours, ni même les années. Sa mémoire se dissout. Il se rappelle vaguement une ville, Corinthe. Il croit y avoir vécu. Aujourd'hui, il n'a plus de ville. Il n'a plus de vie. Il est condamné à faire remonter ce rocher au sommet de la montagne, éternellement. Le ventre gonflé d'ambroisie, la tête embrumée de nectar, Héphaïstos parcourt la salle du regard. Son œil perçoit tout, mais tout lui paraît flou. Peut-être a-t-il abusé de la boisson. Est-il en train de rêver, ou est-ce bien sa femme qu'Hermès lutine sous ses yeux? Il veut se lever pour aller corriger ce malotru, mais ses jambes se déraupent sous lui. Il lâche sa coupe, titube, et s'écroule ivre-mort au pied d'une nymphe. Celle-ci pousse un cri et les dieux se retournent pour découvrir le pauvre affalé à terre, murmurant pour lui seul. « Aphrodite, mon bel amour, pourquoi me trompes-tu ? Ne t'ai-je pas donné ce que tu désirais ? ma petite grenouille honorée, je t'aime. » Héphaïstos se met à ronfler comme une amphore. Aphrodite éclate de rire, puis saisit une grappe de raisin, la porte à sa bouche, la lèche voluptueusement, en demandant à Zeus s'il ne pourrait pas abréger les tourments de Sisyphe, ce beau champion au sourire d'adolescent. Sisyphe est à nouveau redescendu de sa montagne à la recherche du rocher qu'il doit replacer au sommet. Il en a franchement plein le dos de ses efforts répétés, qui n'aboutissent jamais. C'est vrai que cette épreuve met en valeur sa musculature d'athlète. Mais cela devient lassant, cette éternelle remontée qui se termine toujours par une éternelle redégringolade en sens inverse. Il transpire, il s'arc-boute encore, reprend appui sur ses sandales et gagne quelques centimètres supplémentaires. Il se rapproche du sommet, il va l'atteindre. Coupez ! Elle est bonne, très bonne même. Repassez-moi la séquence sur l'écran de contrôle. Oui, parfait, 4 secondes, le son est bon, la lumière excellente, on la garde. Arthur s'est approché pour visionner lui aussi la séquence. Il approuve. Tu sais, Richard, au début, je n'y croyais pas à ta super production. Je me sentais même franchement ridicule avec cette tunique que je persiste à trouver un peu trop courte. J'ai l'impression d'être une midinette en mini-jupe et pousser ce rocher en polystyrène. Mais petit à petit, je suis entré dans ton délire et ça me plaît. Ça n'est pas un délire, mon cher ami. Cela s'appelle un péplum. Ce sera un succès, tu verras. Tu es mis en valeur. Tu es éclatant de muscles, bronzé, beau comme un dieu. Toutes les filles seront folles de toi.
JTFM 91.2, les ateliers des Valounais.
Daddy Blues. 4 mesures. Do, Fa, Sol, Do. Une deuxième fois à l'identique. Puis la mélodie en mode mineur. La mineur. Mi septième deux fois. La mineur. Et pour finir, la même phrase retombant sur le sol en souplesse pour annoncer la reprise. 16 mesures qui tournaient en boucle en accélérant et qui avaient fait de ce morceau de Marcel Dadi le must des guitareux des années 70. Je n'étais pas né à l'époque, mais le derviche tourneur, c'était un morceau que jouait papa. J'y ai repensé quand je me suis vraiment mis à la guitare, une fois étudiant. Pour les filles, bien sûr. Au campus, il y avait un crétin avec sa gratte qui finissait les soirées entouré d'une nuée de meufs chantant avec lui. Écœurant. Moi, j'ai pas la voix qui va bien. Je me suis dit que j'allais compenser avec la technique. Et j'ai exhumé la partoche du derviche. Avec les bases que m'avait données mon père, je pensais y arriver sans peine. En fait, j'avais sous-estimé la difficulté. Résultat, les ongles gauches coupés ras, les doigts calleux à force de tutoyer les cordes, des médiators partout dans la piole. Mais c'était seulement les signes extérieurs du guitariste. J'avais beau m'échiner, les hammers, les pull-off, tous les effets dont ce satané morceau était truffé me résistaient. Même à 80 battements par minute, j'y arrivais pas. Alors accélérer jusqu'à 180 pour séduire les minettes, c'était pas le plan du siècle. J'en étais là, quand Ninon est arrivé dans ma vie. Je sais pas vous, mais moi, avec les filles, j'ai toujours un temps de retard, comme avec le derviche. Et elle, je l'avais pas calculée, Dieu sait pourquoi. Elle était pourtant craquante, avec sa silhouette évocatrice, sa frimousse de chaton et sa façon de froncer le nez. Du coup, j'ai posé la guitare, j'en avais plus besoin. Les ongles ont poussé, les cales ont disparu, avant que Ninon en fasse autant, 5 années plus tard. Là, j'ai eu un gros coup de blues. Le vrai. Celui qui vient de l'intérieur. Johnny avait raison. Ça voulait dire que je l'aimais et que j'avais mal à en crever. Sauf que j'avais pas réussi à le lui dire et à le lui montrer. Ou pas assez bien. Et c'était trop tard. J'ai ressorti la guitare, les partitions. Mais c'était mécanique. Si les doigts retrouvaient peu à peu leur souplesse et leur cale, le cœur n'y était plus. J'annonnais mes morceaux favoris, Derviche compris, sans y mettre mes tripes. Trop risqué, la gratte, là où ça fait mal. J'ai fini par jouer en regardant des séries sur Netflix, puis par regarder des séries sans jouer. C'était plus facile à suivre. Et la housse s'est refermée sur la guitare et sur le passé. Le mois dernier, j'ai fêté mes 35 ans, en famille, sans mon père, qui nous avait quittés depuis peu, sans compagne, pas de relation suivie depuis longtemps. Sinon, tout va plutôt bien. Je programme pour un consortium bancaire, bien payé, en télétravail 4 jours sur 5, un appart moderne, pas loin du tramway, et d'un parc, où je peux me balader quand j'en ai envie. C'est-à-dire pas souvent. J'ai des copines, des copains, et quelques regrets. La guitare en fait partie. J'aurais aimé aller plus loin, quitte à m'arrêter après, mais sur un succès. Curieusement, ça m'a repris après le mail de Ninon. Un message surprise, tout en banalité, comme si on s'était quitté, comme si elle m'avait quitté, 3 mois auparavant. Bon anniversaire, Patrick. Je te souhaite le meilleur. Transmets mes amitiés à tes parents. Bise, Ninon. Sur le moment, j'ai halluciné. 6 ans sans nouvelles, et ce truc à la One Again. Je me suis bien gardée d'en parler à ma mère. Elle n'a pas oublié Ninon, et elle flippe à l'idée de ne pas avoir de petits-enfants. Alors je me suis dit qu'un moyen de clore cette période pour de bon, c'était d'en finir avec le derviche tourneur, avant de dire adieu à la guitare. Aujourd'hui, il y a plein d'outils pour mieux jouer. Des logiciels, des tutos en vidéo. Mais si je voulais vraiment y arriver, cette fois-ci, il me fallait un prof. J'ai trouvé un site sur Internet, une formule à distance avec des coachs locaux. J'ai tenté le coup. Ça a été comme un grand coup de pied aux fesses. Roxane, ma coach, m'a expliqué que j'avais pris de mauvaises habitudes et qu'il fallait tout reprendre. Le rythme, la position du poignet, les doigtés de chaque accord en fonction de celui qui suit, mais qu'elle allait m'accompagner à chaque étape. Je lui envoie des vidéos de mes essais et elle les commente en téléconférence. Ce qui ne gâte rien, c'est qu'en plus d'être compétente et vraiment à l'écoute, Roxane est super jolie. Un visage parfait, qu'il serait presque trop s'il n'y avait ce grain de beauté sous la lèvre. Chez une autre, ce serait déplaisant, alors que sur elle, c'est un charme supplémentaire. Ça la rend plus humaine, plus accessible. Avec Roxane, je fais des progrès spectaculaires en même temps que nos échanges deviennent plus personnels. Je suis arrivée à jouer le derviche correctement au tempo de 120. C'est un vrai miracle. Du coup, la fois suivante, quand on a débriefé ma vidéo, je me suis enhardie à lui demander si l'on pouvait se rencontrer en vrai pour prolonger nos échanges et peut-être aller plus loin. Et là, je l'ai vu littéralement se décomposer. Son visage s'est pixelisé. S'est délité, a disparu et des lignes de code ont défilé sur l'écran. Et puis, plus rien. Thank you.
Les nouvelles, d'où qu'elles viennent, n'appellent pas à un optimisme de bon aloi. Dedans, dehors, tout semble contribuer au grincement, au contretemps, au rage des armes, aux mélancolies du dragon. J'aimerais, je voudrais, mais où que j'aille, quoi que je fasse, le panier de crabe ou la réplique cinglante ébranle mon quotidien. Alors, je fuis. Je rejoins la maison de tout le monde, un lieu mythique dans la Pinède. Au premier temps du séjour, je profite d'une météo propice aux grandes envolées. La balade sur le front de mer me devient rituelle. J'appréhende l'espace comme pour la première fois. La lumière, les nuages, les sables modelés, la présence des oiseaux, la fraîcheur de l'air, tout semble agrémenter le dessin d'une nouvelle carte postale. Puis l'automne s'affirme avec son lot de perturbations, de vents ébouriffants, de chahuts dans les arbres, de vagues tumultueuses aux marées montantes. Les pluies plus présentes altèrent la promenade. Ce jour-là, je profite d'une accalmie. Selon les prévisions de Météo France confirmées par Rain Today, je peux jouir des espaces sans craindre une risée dans les heures qui viennent, mais je ne dois pas traîner. Tôt le matin, sans un souffle d'air, j'avance dans la lumière. Une plage nettoyée de tous ses débris, un sable bien damé par les tempêtes des jours précédents. Çà et là, les gravelots en groupe, plus loin les oies bernaches, de temps à autre le vol bienveillant d'un goéland argenté. Au loin, une île se dessine dans un halo de brume. Je marche légèrement, ivre des contraintes passées. L'accès à la frivolité du moment devient une denrée précieuse. Je réécris la page de mon journal. J'imagine les ingrédients des prochains repas. J'occulte les impératifs d'une fin de séjour. Je trace une union possible entre le présent bien lumineux et mon imaginaire voguant au gré des vestiges des souvenirs. J'ignore l'encre bien noire avec laquelle se dessine l'horizon. Puis, le monde vu du haut de la falaise. Un autre volet de la balade. Un chemin bien praticable. Les pluies des jours précédents ont été absorbées. J'apprécie le contour de la baie dans son ensemble. Le moutonnement des vagues s'oppose aux frondaisons des grands pins. Je me laisse envoûter par une atmosphère enrichie des odeurs de sel et d'algues. Le trachépâtre, petit turpidé vigilant en haut de son buisson, assure l'altérité du lieu. Il apprécie le dialogue de ce vieil homme avec son chien. J'échange quelques mots affables avec d'autres promeneurs, j'en oublie l'urgence que je m'étais fixée. Les vents se sont intensifiés avec leur saute d'humeur. La cavalcade des nuages brouille la sérénité de l'escapade du matin. Une bande nuageuse plus hostile s'impose à l'ouest, mais je sous-estime les effets de la tempête. Quand j'arrive au bout de la pointe, le vent forcit. Je dois en tenir compte pour ne pas me laisser entraîner dans les zones sensibles. Avec la montée des eaux, le spectacle paraît grandiose. Les premiers nuages en sentinelle enrichissent le tableau. La lumière se joue des clairs-obscurs. De plus en plus, les traits de soleil battent en retraite. L'écume orne le haut de la vague. Celle-ci, de plus en plus rugissante, se jette sur le rocher en bas de la falaise. Je dois m'arrimer au sol pour goûter aux différents tableaux qui s'enchaînent devant moi. Le sifflement du vent, les éclats de l'océan s'amplifient, le son saturé contraste avec les silences furtifs. Les zones de pluie apparaissent concentrées sur l'autre versant de la baie. Le retour s'annonce laborieux. Je dois lutter pour maintenir un cap. L'abri du taillis paraît salutaire un court instant seulement. La marche sur le sable m'entraîne à une autre romance. J'aurais pas dû discuter avec ces deux-là revenus de l'estran, un seau et une fourche dans la main. J'aurais pas dû m'écarter du circuit prévu. Je n'aurais pas dû m'attarder sur les féeries des explosions d'écume. J'ai mésestimé les champs, les contre-champs. J'ai trop ignoré les invasions barbares. Implacablement, les nuées lourdes avancent, la mer, le ciel, les nuages se fondent dans une masse rageuse, tumultueuse, trop tard pour un retour dilettante. La averse modifie les données, l'eau cingle tout sur son passage, le sable, les algues, les dunes subissent la tourmente. Moi non plus, je ne suis pas épargné, je courbe le dos, je baisse la tête, je me protège le visage, mon vêtement mouillé colle à la peau, ça ruisselle dans le crou, ça brouille le regard, ça déforme les mirages. Un horizon fixé sur mon pas, les espaces autour de moi se diluent dans un lavis informe. Une silhouette fantôme s'extrait du magma, deux, trois paroles brouillées, une réponse balbutiée, aussitôt l'absence. Les oiseaux ont déserté les lieux, j'avance malgré tout dans les gris encore plus gris, les embruns plus mordants, le froid encore plus dense, l'acharnement du vent. Je me sens emporté dans un concert débridé, une mélasse de sons où chacun joue rageusement sa partition. Je lutte pour garder le cap, je sais l'issue proche, et encore une rafale plus imposante, et encore un grain plus métallique. Je retrouve la pinède, les arbres torturés, triturés, freinent malgré tout la course du vent. La chanson s'amplifie sur d'autres nuances et dure quelque temps encore. Je ne suis plus qu'une masse aqueuse, devant la porte un corps mouillé, imbibé, dedans, dehors. Autour de moi une symphonie perdure, l'obstination d'un final qui n'a rien de pastoral. Une fois la porte refermée, les riens, les reliefs du silence, il me faudra du temps pour me défaire du vêtement imbibé d'eau.
JTFM 91.2, les ateliers des Valounais.
Les textes que vous venez d'entendre sont de Henri Burcard, Bernard Cellier, Philippe Couat et Michel Frappard. Les lectures ont été réalisées par les auteurs ainsi que Anaïque Frappard pour Daddy Blues.